RMC, les grandes gueules.
Simone Brejean qui est avec nous, l'une des porte-parole d'En Marche. Bonjour.
Bonjour.
Bah alors c'est pour quand?
J'en sais rien.
La déclaration du président.
Le président, vous le savez, il est au travail, que ce soit sur le front sanitaire, que ce soit sur le front économique en France, que ce soit sur le front international, on voit avec ce qui se passe en Ukraine encore très récemment. Donc le moment viendra, je l'espère.
Et vous-même, vous êtes impatiente?
Moi, j'ai envie de faire sa campagne. Je souhaite que le président de la République soit réélu. On a eu 5 ans avec un président de la République qui n'a eu de cesse de protéger les Français. Protéger leur santé pendant la crise sanitaire, protéger leur emploi. J'entendais Bruno Le Maire ce matin qui disait qu'on avait un taux de chômage de 7,4%. C'est au plus bas depuis 2008. On a un taux de chômage des jeunes qui est au plus bas depuis 40 ans. Mmh. On a doublé le nombre d'apprentissages par an. Il y en a eu plus de 700 000 signés l'année dernière.
Finalement...
On a fait le plan Un jeune, une solution. Donc, il y a encore beaucoup de travail.
Non, finalement...
Mais quand je vois ce qui a été fait, j'ai très envie de signer pour 50
plus. Supprimons l'élection présidentielle. Il est tellement formidable. Autant le laisser continuer. Non, mais je me demande pourquoi on perd son temps à organiser des débats, à parler des autres.
Et parce qu'en France,
c'est tellement formidable.
Parce qu'en France, on vit dans une démocratie et que c'est très bien que le débat démocratique se tienne, mais vous comprendrez que moi, en tant que porte-parole et que soutien de la première heure du président de la République, j'espère qu'il sera réélu en avril prochain.
Et vous faites partie de la Dream Team déjà, avec de Normandie, Attal, Le Cornu, etc., non?
Ah, je ne sais pas, c'est quelle Dream Team vous parlez?
Je ne sais pas,
une équipe de foot
qui prépare la campagne officielle.
Oui, d'accord, mais s'il se lance, le président de la République, et personne ne doute qu'il ne le fasse, c'est sur quel thème? Parce que 50 plus, ça veut dire quoi, 50 plus?
50 plus.
C'est, voilà, il y aura quand même un programme, un projet, j'imagine.
À lui de décliner sa vision, évidemment, le moment venu. Enfin, on voit quand même quelques esquisses. Par exemple, en matière de sécurité, on a réparé ce qui n'avait pas été fait pendant des années en augmentant, par exemple, le nombre de forces de l'ordre. Le prochain quinquennat, ça doit être celui de la transformation. On a beaucoup avancé sur le plan économique avec les réformes du marché du travail. Il va falloir s'attaquer à d'autres points qui sont, par exemple, la réforme des retraites. Sur l'éducation, il y a encore aussi des choses à faire. Et on voit le dernier point, peut-être, c'est le volet industriel. Il y a un gros chantier sur la réindustrialisation. C'est ce qui est fait, par exemple, dans le cadre France 2030. Donc tout ça, il faut le poursuivre.
Mais pourquoi faire confiance à Emmanuel Macron sur la réforme des retraites? Alors, il a été incapable de la faire. Ça a été un pataquès. D'ailleurs, maintenant, il veut plus faire la même, visiblement. Donc, ça a été un pataquès. Il y a eu du monde dans la rue. Ça a crispé tout. Pourquoi lui faire confiance sur ce sujet-là, la réforme des retraites? Je me dis, il faut peut-être donner sa chance à d'autres, puisqu'il a échoué pendant 5 ans à réformer les retraites.
Une réforme des retraites, c'est toujours complexe à faire. Et ça a été un quinquennat qui a été complexe. D'une part, il y a eu la crise des gilets jaunes. Ensuite, il y a eu la crise sanitaire. C'est des choses qu'on ne pouvait pas prévoir lors de l'élection de 2017.
La réforme des retraites, c'était avant la pandémie.
Et je pourrais aussi vous lister tout ce qui a été fait pendant ce quinquennat-là.
Non, mais sur la réforme des retraites, précisément. Parce que je voudrais comprendre, il a proposé une réforme. Finalement, il a stoppé sa réforme. Semble-t-il, maintenant, il n'est plus d'accord avec ce qu'il a mis en place, sa réforme à la carte, avec l'âge pivot, etc. Et donc, il veut faire une autre réforme. Tout ça est quand même très compliqué.
Il va falloir forcément reprendre les concertations. Et puis, l'élection présidentielle va être aussi l'occasion d'en débattre. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République, c'est pas un président qui se résigne. Pardon. C'est un président qui continuera à réformer les 5 ans prochains.
Il veut privatiser l'école?
Il veut pas privatiser l'école. J'ai entendu
Anne Hidalgo,
voilà, sur votre antenne, me semble-t-il, hier. L'école, c'est un joyau de la République. L'école de la République, c'est ce qui, moi, me permet d'être devant vous aujourd'hui. Maintenant, il y a besoin, effectivement, de transformer l'école parce que, il le disait déjà en 2017, c'est probablement le premier levier pour lutter contre l'assignation à résidence. Donc, il faut peut-être mieux former les enseignants. Il faut peut-être voir comment est-ce qu'on réorganise le système éducatif. Je rappelle quand même ce qui a été fait sur ce quinquennat-là. Ce quinquennat, c'est le quinquennat qui a remis l'école primaire au cœur de l'éducation nationale. Et ça, c'est les savoirs fondamentaux. Quand on dédouble les CPCE1 dans les zones REP et REP+, quand on fait des plans maths et des plans français et qu'apporte des plans de formation continue à l'ensemble des enseignants, ce qui n'existait pas avant. On a avancé, mais il y a encore du chemin. C'est un gros chantier, l'école.
Léa ?
Moi, j'ai une question là-dessus, parce que j'ai quelques enseignants dans mon entourage, et ça fait 5 ans que le ministre de l'Éducation leur promet une revalorisation des salaires, qui n'arrive pas. Et aujourd'hui, vous avez énormément de professeurs en collège, en lycée, qui sont en souffrance absolue, parce qu'ils ne sont pas écoutés, parce qu'ils ont l'impression que leur ministre, non seulement ne les écoute pas, mais en plus fait n'importe quoi, et ensuite se justifie alors qu'il est dans des endroits incroyables, alors qu'il fait des annonces. Qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, non mais dans des endroits où il fait joli, et où je suis certaine, il a certainement passé un bon moment. Mais ça doit être plus sympa que dans son bureau. Hein. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le prochain quinquennat pour ces enseignants-là? Est-ce que leur salaire va être revalorisé comme on leur promet depuis 5 ans? Est-ce que ça va être 5 ans de nouvelles promesses? Qu'est-ce qu'il va y avoir de beau pour eux qui sont en train, en plus, de plus en plus de partir de ce métier-là. Et ça va être un cercle vicieux.
Alors,
il y a déjà eu des revalorisations salariales sur ce quinquennat-là. Je pense qu'effectivement, il faut les poursuivre. Il y a aussi eu de la gratification qui a été donnée, par exemple, pour les directeurs d'école et les chefs d'établissement.
Qui ne sont pas professeurs.
Et ensuite, tout à fait, mais ensuite, ce qui a été fait, je le disais, sur l'école primaire, ce qui a été fait sur le lycée. Moi, je pense qu'il y a tout un chantier à peut-être réorganiser autour du collège sur lequel on a moins travaillé pendant ces 5 dernières années. Mais ce sera encore une fois au président de la République. J'aimerais pouvoir vous donner le programme aujourd'hui. Malheureusement, je ne le connais pas encore.
C'est frustrant.
Pardon ?
C'est frustrant. Parce qu'il a ses parrainages en plus.
C'est frustrant. On regarde tout le bilan qui a été mis en place. On regarde le. Non, mais il y a le bilan déjà, et ça nous donne largement de quoi défendre. Il y a tout ce qui a été encore une fois décliné ces derniers mois. Je parlais de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Je parle de France 2030. C'est les annonces sur le nucléaire qui ont été faites à Belfort. On a largement la matière pour discuter sur les plateaux quand on parle du fond.
Mourad Boudjelal.
Moi, je vais vous poser une question basique et que vous entendez sur tous les plateaux. Est-ce que le calendrier électoral est lié au calendrier de la levée des du pass vaccinal, de la levée de toutes les interdictions liées au Covid?
Alors, deux choses,
le calendrier. Il y a un lien de cause à effet, quoi.
Le calendrier électoral et les élections d'avril prochain, elles sont prévues depuis déjà des années. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a mis en place par rapport au Covid. Et ensuite, effectivement, le coronavirus n'a pas d'agenda électoral. Il y a une saisonnalité de la pandémie qu'on commence à connaître depuis quelques mois, depuis deux ans maintenant. Et donc, on a toujours fonctionné avec des mesures qui sont proportionnées. Quand on a une vague qui arrive, on met des contraintes pour protéger les Français. Là, on voit bien que ça décroît, que l'hôpital commence à fonctionner plus normalement, quoi qu'il y ait encore quelques déprogrammations, donc il faut attendre.
Enfin,
c'est pour ça qu'on est prudent.
Arrête tout, quoi.
Je comprends votre question au sens où il y a deux calendriers qui sont concomitants, mais l'un n'est pas lié à l'autre parce que l'élection était prévue depuis longtemps et le coronavirus, lui, n'a pas d'élection en avril et il fait ce qu'il veut.
Aujourd'hui, on pourrait, à l'instar d'Israël ou d'autres pays,
qui va accélérer,
lâcher la grappe, et on se dit que il va y avoir un grand moment où on va tout lâcher, et Macron va être candidat et c'est la fête, c'est la joie, ça y est, on revit.
On a un calendrier.
Pourquoi est-ce qu'on lâche pas plus tôt ce que font nos voisins d'ailleurs?
On a un calendrier d'allègement des contraintes. Regardez par exemple ce qui se fait sur le masque en extérieur, c'est aussi ce que font un certain nombre de nos voisins avec des dates relativement similaire, mais effectivement on est prudent parce que aujourd'hui à l'hôpital il y a encore beaucoup de personnes atteintes du coronavirus en réanimation, et donc tant qu'il y aura ces déprogrammations là, on peut pas lâcher toutes les contraintes parce qu'il s'agit de protéger les Français, mais il s'agit aussi de protéger le système hospitalier.
Le critère qu'a donné
Olivier Véran, c'était avoir entre 1000 et 1500 seulement, si je peux me permettre, lits de réanimation pris par des patients Covid, et évidemment pas de nouveaux variants, puisque on sait bien que dans cette crise, il ne faut jamais dire jamais.
Bien sûr que Emmanuel Macron n'avait pas prévu que le variant Omicron baisse au moment où l'élection présidentielle arrive. Mais c'est une opportunité pour lui.
Vous savez bien qu'il fait
de la politique.
Il a la baraka quand même.
Oui, il a la baraka. Il faut avoir un peu de baraka.
Mais il y a aussi une saisonnalité, on le voit bien.
Oui.
Dans cette pandémie.
De moins en moins, puisque le variant Delta est arrivé l'été. C'est pas aussi clair.
La flambée,
c'est une opportunité politique pour lui. Il va arriver devant les Français. Je vous ai protégé du Covid. Vous voyez, en plus, c'est terminé Omicron. Donc, je peux me représenter. C'est formidable. Coup de chance.
Le président de la République, comme la majorité présidentielle, et contrairement à une grande partie de l'opposition, ne fait pas de la politique politicienne sur le dos de la crise. Bon. Le seul objectif du président, c'est de protéger les Français. En prenant des décisions qui ont été parfois difficiles, au bon moment, moi, je me rappelle d'une chose, on n'a pas
une conférence de presse du Premier ministre, du Président ou du ministre de la Santé qui, en préambule, pendant un quart d'heure, va expliquer qu'ils ont tout fait bien et que c'est grâce à eux. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de politique politicienne sur le Covid.
Je reprends. Nous, on ne fait pas de politique politicienne sur le dos du coronavirus, ce qui ne veut pas dire que tout a été parfait pendant cette crise. Et je pense qu'aucun chef d'État n'a tout géré parfaitement. Parce que c'était une crise historique. Donc il faut aussi savoir reconnaître des erreurs. Et moi, je les concède volontiers. Ce que je vois après deux ans, c'est qu'on a protégé au mieux la santé des Français, qu'on a protégé les emplois des Français. Et ça, c'est extrêmement important parce que derrière, c'est des notions de pouvoir d'achat qui font la fiche de paye et donc le quotidien de tous ceux qui nous écoutent. Et donc, effectivement, on continuera dans cette lignée-là. Et puis ça permettra aussi de faire du retour d'expérience sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas bien fonctionné.
Bruno Pomard.
Question élection. Bon, on s'attend à un deuxième tour Macron-Zemmour ou Macron-Pécresse. Qu'est-ce que vous préférez, vous ?
Alors je n'ai pas du
Macron
tout. Je ne sais pas ce qu'on aura.
Macron Le Pen.
Ou Le Pen. Oui, mais c'est bon pour l'instant.
Non, mais juste, qu'est-ce qui vous intéresse?
Moi, je pense qu'on ne peut pas se réjouir d'avoir aujourd'hui les extrêmes qui soient qualifiés au second tour. Et il ne faut pas qu'on s'habitue. Et ils ne font pas qu'on s'habitue à ça. On ne fait pas tout pour que ce soit le cas. Je vais vous dire une chose.
Il faut mieux que Zemmour.
Si aujourd'hui, on va se nommer, parlons-nous franchement. Si aujourd'hui, Mme Pécresse dévisse dans les sondages, c'est pas parce que Emmanuel Macron n'est pas candidat ou c'est pas parce que tel ou tel autre candidat est meilleur.
Cible Pécresse plus que Zemmour.
On cible pas plus Pécresse que Zemmour.
Vous avez entendu
pendant un temps, vous nous disiez pendant un temps qu'on ciblait trop Marine Le Pen. La réalité, c'est que moi, je vois une candidate LR qui est allée d'Alain Juppé au Guantanamo à la française d'Éric Ciotti et donc qui a un problème qui n'est pas son programme, qui est son insincérité, que les gens ressentent. Non, je vous donne mon avis, mais je pourrais vous dire la même chose sur Éric Zemmour ou sur Marine Le Pen et vous dire ce que j'en pense. Écoutez, nous, on a combattu les extrêmes depuis 5 ans maintenant.
La preuve que non, parce qu'ils sont jamais
aussi haut. Combien de ministres
sont allés se confronter sur les plateaux télé face à Éric Zemmour, face à Marine Le Pen. On n'a jamais refusé ce combat-là, on n'a jamais refusé ce débat-là. Si aujourd'hui, du côté des Républicains, ils sont tiraillés entre une droite modérée et l'extrême droite, c'est pas de notre faute. Et si leur candidate, elle n'imprime pas, c'est pas de notre faute.
Mais vous pouvez pas dire, on a tout fait pour faire reculer l'extrême droite et ne pas constater dans ce cas-là l'échec de ce combat. Puisque si on prend les scores de Zemmour, de Marine Le Pen, ils n'ont jamais été aussi hauts. Donc c'est un échec ce combat-là.
Là où je vous rejoins, alors,
permettez-moi
c'est que...
de douter sur la vigueur du combat que vous avez mené, peut-être parce que c'est la meilleure chance de réélection, Emmanuel Macron, de se retrouver comme il y a 5 ans, soit face à Marine Le Pen, soit face à Éric Zemmour.
En quelle année
c'est cynique, c'est politique, mais c'est comme ça.
En quelle année l'extrême droite s'est qualifiée pour la première fois au second tour?
2002.
Quel âge avait Emmanuel Macron en 2002? Probablement une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Donc la montée de l'extrême droite en France, d'une part, elle ne date pas de 2017. Et au fond, quelle est notre responsabilité quand on est au pouvoir pour lutter contre l'extrême droite? C'est faire en sorte qu'elle ne puisse pas se nourrir des peurs et des craintes des gens. Donc quand on fait ce qu'on a fait sur le pouvoir d'achat, et je sais qu'il y a encore beaucoup à faire, mais en faisant en sorte que le travail paie mieux, en faisant en sorte que le chômage baisse, quand on renforce le régalien, on fait en sorte qu'il ne puisse pas se nourrir des peurs et des craintes. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'encore une fois, tout a été fait. Et il y a encore beaucoup à faire, mais la sécurité, ça ne date pas de 2017, c'est la même chose.
Vous ne pouvez pas dire ça.
Et je pense qu'on a aussi, dans la façon dont on traite le débat sur l'immigration, on fait partie des partis de gouvernement qui n'ont pas fait de l'immigration une obsession. C'est un sujet sérieux, mais on ne rajoute pas d'hystérie au débat.
Un mot quand même sur la cohérence aussi, parce qu'Emmanuel Macron, qui était avec François Hollande, a été le ministre qui a fermé Fessenheim. Mmh. Et puis là, maintenant, on nous promet de nouvelles centrales nucléaires. Donc on a du mal à piger la cohérence, quoi.
Alors, il y a deux choses. La décision de fermeture de Fessenheim, elle est prise en 2012. Ce qui fait qu'entre 2012 et 2017, il y a un certain nombre d'investissements qui ne sont pas réalisés. Si je vous dis, vous emmenez votre voiture à la casse demain, vous ne changez pas la courroie de distribution ce soir.
Je pense que
tout le monde le comprend. Oui. Ce qui fait qu'ensuite, effectivement, la décision de fermeture, elle a été maintenue pour des raisons technico-économiques. Pour autant, il faut rappeler une chose, c'est que le nucléaire, sur les 50 dernières années, c'est 75 milliards de tonnes de CO2 évitées dans le monde. Donc faire le choix du nucléaire, c'est faire le choix du climat, c'est faire le choix de la réindustrialisation et c'est faire le choix de l'emploi. Plus de 200 000 emplois directs et indirects qui vivent de cette industrie. Le 20e siècle, a eu un plan Messmer qui a permis l'avènement du nucléaire en France. Le 21e siècle aura un plan Macron, c'est une excellente chose.
Un plan Macron sur le nucléaire.
Exactement, c'est ce qu'il a annoncé.
L'avenir énergétique en France, c'est le nucléaire.
C'est aussi le nucléaire.
Je sais que vous êtes ingénieur nucléaire.
C'est aussi le nucléaire.
Bah, vous accusez d'être partial.
6 EPR qui seront construits, plus 8 en études, ça représentera environ 50% à terme de nucléaire en France. C'est pour ça qu'il est absolument primordial de développer les énergies renouvelables. Et moi, quand j'entends Éric Zemmour ou Marine Le Pen qui disent qu'ils veulent plus d'éoliennes ou qu'ils veulent pas de panneaux photovoltaïques, ils se trompent. Royalement.
Emmanuel Macron a encore changé d'avis sur les éoliennes.
Il
était beaucoup plus ambitieux au début de son mandat sur les éoliennes. Il en voulait beaucoup plus. Et là, maintenant, il a réduit la voilure.
Les énergies renouvelables et le nucléaire sont complémentaires. Sur les éoliennes, ce qui a été annoncé, c'est conforme au scénario de RTE qui ont été présentés il y a quelques semaines. Et il faut aussi entendre, effectivement, que sur les éoliennes, il y a des oppositions locales, ce qu'il n'y a pas sur les centrales nucléaires.
Ouais, moi je suis d'accord avec ça. En fait, ils ont visé le scénario le plus haut des 6 scénarios de RTE, donc c'est quelque chose qui reste dans les clous. Mais sur une question qui est annexe et qui est aussi environnementale, sur la réindustrialisation, comment est-ce que vous allez faire pour réindustrialiser sans imposer des règles de protectionnisme? Ou en tout cas, comment est-ce que vous allez faire ça en restant au sein de l'Union européenne, car un cadre de concurrence qui va peut-être mettre une taxe carbone aux frontières, mais on sait très bien qu'au niveau où elle est actuellement, ça permettra pas de contenir et de refaire venir chez nous des capitaux. Comment est-ce que ça va se passer concrètement? J'ai l'impression que dans le débat public, on entend en permanence parler de réindustrialisation, mais personne ne nous propose de plan concret là-dessus.
En une minute.
France 2030, c'est un plan extrêmement concret.
Ça
permet d'impulser des dynamiques sur des secteurs d'avenir qu'on considère comme innovants, l'avion bas carbone, la voiture électrique, les petits réacteurs modulaires. Et donc, on permet aux industriels de s'engager là-dedans en les soutenant, et en parallèle, on développe les compétences. Bien. Parce que avoir l'industrie qui s'installe en France, c'est certes lié à certaines réglementations, en tout cas, ça peut les contraindre. Il y a aussi beaucoup de compétences en France et qui permettent ce développement-là.
Oui, mais juste
pour aujourd'hui, c'est rapide. Macron, alors, très court, est en mesure de gagner la présidentielle aujourd'hui sans problème. Mais le problème, c'est qu'En Marche est une entité physique. C'est pas une entité morale. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que En Marche est capable de gagner les législatives derrière? Parce que sinon, on aura un cas de figure unique sous la Ve République.
Alors,
on pourrait avoir un président de la République qui n'a absolument pas le pouvoir législatif. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, En Marche est capable de gagner les législatives qui vont arriver derrière?
La majorité présidentielle, c'est pas uniquement En Marche. Nous, on a vocation à travailler avec toutes les femmes et les hommes qui viennent de gauche et de droite, qui veulent que la France
réussisse. Donc, vous construisez la
pré-présidentielle. Que ce soit Édouard Philippe ou des personnes qui viennent de la gauche. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire une majorité, parce qu'ensemble, tout devient possible.
Et vous serez candidate aux législatives.
La seule priorité, ça doit être, c'est la mienne et ça doit être celle de l'ensemble des députés, d'ailleurs. C'est la réaction du président de la République.
Merci, Maude Bréjon.